it's strange, honestly,
en fait, honnêtement.
Because this is
Parce
what
que,
he says.
Voilà ce qu'il dit.
He says, remember,
dit, souvenez-vous,
judgment
que le jugement
is coming.
Va venir.
Judgment
le jugement
is
va venir.
Coming. That's a strange way to encourage
C'est une drôle de manière
people,
d'encourager les gens, n'est-ce pas?
This is what he says in 1 Peter.
C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre,
chapter 1,
chapitre 1,
starting with verse 17.
Au verset 17.
He says, if you call
dit,
on him as father,
si
who judges comme, impartially,
c'est comme un père qu'on fait appel à lui, qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de manière de vivre, dépourvus de sens que vous avez été transmises de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc, vous savez que vous avez été racheté, que vous avez été pris, racheté à un prix très élevé. Donc, vivez avec la crainte parce que vous allez être jugé de manière impartiale. Comment est-ce que ça marche, ça? Comment ça fonctionne? En quoi est-ce que ça peut nous aider à traverser notre vie remplie de tribulations, de difficultés? Je crois que nous devons commencer par réfléchir à ce que signifie le mot « juger ». Parce que ma réaction naturelle, c'est de penser à un juge ou le jugement de manière très négative. De penser qu'être jugé, c'est comme être condamné. Ça, c'est ma tendance naturelle. Mais en fait, le mot signifie discerner la vérité. Et à partir de cette vérité, de prendre les actions, de faire les actions appropriées. De prendre les décisions appropriées. Si on vous a fait du tort, s'il y a un procès, vous voulez connaître la vérité, vous voulez que la vérité sorte. Si on vous a accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous voulez que la vérité sorte. C'est fait partie de l'idée de jugement
et
donc la vérité sera découverte et Dieu prendra la bonne décision. Il sait. Mais quand il s'agit d'un jugement, Hébreux 9 nous dit on mourra une fois et après on verra le jugement. Donc il y a certaines vérités dont on doit se souvenir. La première est la suivante. L'Évangile est notre seul espoir. Quand vous retrouverez devant Dieu au moment du jugement, et la décision c'est est-ce que vous allez aller au paradis ou en enfer, vous serez considéré comme coupable parce qu'il n'y a aucun moyen de vivre une vie sans péché. D'accord ? Mais alors on peut se dire, oui, mais il y a beaucoup de religions qui nous permettent d'être bons et de gagner la faveur de Dieu. Et c'est ça le fonctionnement de ces différentes religions. On espère que l'on fera autant de bien pour compenser tout le mal. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Vous regardez les exigences de Dieu, de la loi, et en fait, vous êtes coupable. Et aucune quantité de bonnes choses, de bonnes œuvres, ne sera suffisante. C'est là qu'intervient l'Évangile. Et Jésus-Christ a vécu une vie sans péché, et il est mort à notre place. Il a pris la sanction pour nos péchés. Il l'a pris sur lui-même. Et il a dit que ceux qui croient en lui, que ceux qui se repentent et qui l'acceptent comme Seigneur, comme Sauveur, recevront la vie éternelle. Et comme résultat, ceux qui ont été nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui l'ont accepté comme Seigneur, il y a cette vérité glorieuse qu'on trouve dans Romains chapitre 8. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'irai pas en enfer parce que je sais que Jésus est mon Sauveur. Et il est mon Sauveur. Et c'est une vérité glorieuse. L'accusateur, Satan, veut montrer les choses négatives dans ma vie. Et je lui dis, Satan, va parler à mon avocat. Va me parler à mon avocat. Je l'envoie à Jésus. Et Jésus dit, qui es-tu pour accuser Satan? Qui es-tu pour accuser? Je t'ai déjà vaincu. Donc le pouvoir est le mien, dit Jésus. Donc il n'y a pas de condamnation pour nous comme nous sommes en Christ Jésus. Romains 8, 1. Donc on doit se souvenir de ça quand on parle de la question du jugement. Il y a une deuxième vérité, on en parle peut-être un peu moins, en tant que croyant, on se tiendra un jour devant le jugement de Dieu et nos vies seront examinées par Dieu. En tant que chrétien évangélique, même la plupart des chrétiens évangéliques, on n'aime pas trop à penser à ça. On aime bien la première vérité qui dit « il n'y a aucune condamnation ». Mais on a tendance à ignorer les autres passages qui parlent du fait que qu'on sera jugé par Dieu et que notre vie sera révélée. Et des passages comme 2 Corinthiens, l'apôtre Paul qui insiste sur le fait qu'on est sauvé par la grâce, nous rappelle aussi, il parle du salut par la grâce, il dit que le salut c'est un don de Dieu, et il écrit à des croyants ici dans ce passage, et il dit la chose suivante, que nous soyons à la maison, que nous soyons en déplacement, notre but doit être de lui plaire. Pourquoi? Parce que nous devons tous apparaître un jour devant le tribunal de Christ. Pour que chacun recevoir son salaire pour ce qu'il aura fait de bien ou de mal, alors qu'il était dans son corps. Donc pour le bien ou le mal. Donc chacun de nous, donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Il nous dit, parce que le jugement sera là-bas, mon objectif c'est de plaire au juge. Donc il a écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3:11-15. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ, que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Donc, il y a les œuvres de nos vies, et il y a une allumette qui, qui fait brûler ça et, on, et révèle la vérité. Donc si, si quelqu'un, si l'œuvre de quelqu'un est construite sur le fondement qui subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Donc là, on ne parle pas de ciel et d'enfer. Il sera sauvé lui-même, mais comme au travers d'un feu. Un passage comme celui-là, dans Romains chapitre 14. Pourquoi est-ce que tu juges ton frère? Pourquoi est-ce que tu méprises ton frère? Parce que nous serons tous jugés. En d'autres termes, Paul dit, vous vous jugez les uns les autres, mais souvenez-vous que chacun d'entre nous, les croyants, on va être jugé par Dieu. Donc il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chaque genou pliera devant moi et chaque langue confessera à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc chacun d'entre nous, même si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, chacun d'entre nous devra rendre des comptes de nos actions à Dieu. Un jour. D'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une des questions qu'on se pose, c'est mais quand est-ce que ça aura lieu, cet événement? Et donc, alors, on parle de l'Apocalypse, du calendrier de la fin des temps. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas louper cet événement. Vous n'avez pas besoin de savoir quand ça aura lieu. Ça aura lieu un moment ou un autre. D'accord? Ça viendra. Ça viendra. Donc, qu'est-ce que. De quoi est-ce que vous allez devoir faire un. Rendre des comptes? De quelles actions? En général, je crois qu'il s'agira de savoir est-ce que vous avez été obéissant ou pas. Paul a écrit aux Romains que sa tâche, sa mission était de que les gens deviennent obéissants, cette obéissance qui vient de la foi. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'obéissance, d'être des enfants obéissants, et je crois qu'on va être jugé par Dieu. Et donc, un jour, et donc, nous sommes sauvés, c'est vrai. On est devenus les enfants de Dieu. On a accepté Jésus comme sauveur. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Mais est-ce qu'on est un enfant obéissant ou désobéissant? En général, je pense que c'est ça en fait qu'on va devoir, rendre compte pour ça. Donc est-ce qu'on a vécu des vies dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Et quand j'ai essayé de trouver plus d'éléments pour ce message, pour me préparer, pour vous préparer aussi pour ce jour ou du jugement, j'ai réalisé qu'il y a des passages dans la Bible qu'on doit prendre en compte. Donc, on va rendre un décompte comment on a géré les responsabilités qu'il nous a données. Comment est-ce qu'on a géré ces responsabilités? Dans quelle direction est-ce que je veux aller? C'est d'où est-ce que j'ai trouvé ça? Donc dans le livre de Luc au chapitre 19, Luc chapitre 19. Donc d'où est-ce que j'ai tiré cette affirmation? Donc Luc chapitre 19, verset 10. Donc Jésus raconte une parabole. Au verset 12, il dit, il y avait un homme de haute naissance qui partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses citoyens le détestaient. Ils envoyèrent une délégation après lui pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Donc, il appelle ses serviteurs pour rendre des comptes. Et le premier serviteur se présente et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu étais fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voilà ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis au moins mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il a dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Et lui dire, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Donc c'est comme ça qu'il gère les serviteurs. Et pour ses ennemis, il dit, « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Donc j'aimerais que vous compreniez dans cette parabole l'idée que le roi leur a remis des responsabilités. Et donc plus tard, quand il revient, il les a appelés à rendre des comptes pour ces responsabilités qu'il leur avait données et qu'il y avait une récompense pour faire, pour agir en fonction de ces responsabilités. Donc je pense qu'on peut réfléchir à quoi de quoi est-ce qu'on va être responsable et de réfléchir aux responsabilités qu'il nous a données. Donc quand je regardais ce passage, j'étudiais ce passage, il y a un passage qui m'a fait trembler un petit peu. C'est un passage dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Obéis à tes dirigeants et soumets-toi. Donc ça a l'air d'être... On pourrait impliquer ça pour un pasteur, mais bon, il s'agit des autorités probablement aussi. Donc si on continue de lire, donc dans Hébreux 13, 17... Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en qui devront rendre des comptes. Donc moi, en tant que pasteur, je devrais rendre des comptes pour mon rôle de pasteur. C'est ma responsabilité qui m'a donnée à moi. Et donc, l'idée ici, donc ne concentrez pas sur moi, mais concentrez-vous sur l'idée que Dieu donne à chacun des responsabilités. Et un jour, on devra rendre des comptes sur comment est-ce qu'on a géré, comment on a agi avec les responsabilités qu'il nous a données. Dans le livre d'Éphésiens, il y a un passage qu'on aime bien citer qui dit au verset 8, « Par la grâce, nous avons été sauvés. Et ce n'est pas pour vos propres œuvres, c'est un don de Dieu. Pas le résultat de vos œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. Verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a prévu des choses pour nous, il nous a prévu des responsabilités qu'il nous a données. Et un jour, on se tiendra devant lui pour rendre des comptes de ce qu'on a fait. Donc, quelles sont les responsabilités qu'il nous a données? Quand vous réfléchissez à votre vie, quelles sont les responsabilités que Dieu vous a confiées? En octobre, je suis tenu devant des témoins et j'ai fait un vœu sacré à Jeannette, ma femme. J'ai promis ce jour-là que je m'occuperai d'elle, que je serai fidèle pour le reste de ma vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit malade. Et un jour, devant Dieu, et je devrais rendre des comptes sur la façon, sur cette responsabilité de m'occuper d'être fidèle à ma femme. Je vous le dis, c'est une grande responsabilité, mais c'est une joie aussi. J'ai la chance d'avoir cette responsabilité. Est-ce que je marche chaque jour dans ma vie d'homme marié, qu'un jour je serai responsable de la façon dont j'ai traité ma femme? Nous avons été bénis, Dieu nous a donné deux enfants. Je serai responsable devant Dieu comment j'ai élevé ces deux enfants. Dieu m'a donné un métier. Un appel, un don, des dons, des responsabilités. Et mon don, c'est de servir d'autres gens dans le ministère et de pourvoir aux besoins de ma famille. Il se trouve que mon rôle, c'est d'être pasteur, mais avant d'être un pasteur, je travaillais dans le monde des entreprises. Comment est-ce que j'ai géré ces responsabilités devant Dieu? Je vais devoir rendre des comptes en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus. Je suis appelé à faire partie d'un corps local, d'une église locale, d'aimer, de prier, de travailler avec d'autres chrétiens, avec une église locale, d'être là, présent pour les gens de l'église locale, de servir les gens dans l'église locale. Et un jour, je me tiendrai devant Dieu. Et il me dira, qu'est-ce que tu as fait de cette responsabilité que je t'ai donnée? Tous ces tout ce que je t'ai demandé de comment tu dois te conduire avec ton frère et tes frères et sœurs. Alors je parle de ce thème, il y a une certaine, on a l'impression que c'est une atmosphère un peu tendue dans la pièce, je peux le ressentir. Et Et quand j'étudiais ces passages, préparais ce sermon, il y avait une certaine aussi atmosphère un peu difficile dans mon esprit, dans mon âme. Jusqu'au moment où j'ai réalisé en fait un certain nombre de choses. Tout d'abord, la responsabilité ou l'irresponsabilité pour lesquelles je souhaite qu'on m'a confié sont des responsabilités qui m'ont été données par mon Père qui m'aime et qui connaît toutes choses, qui est omniscient, qui a aussi promis de me donner la force et les ressources nécessaires pour réaliser le travail et qui connaissait aussi mes propres forces et mes faiblesses. Il connaissait, il savait ce qu'il faisait quand il m'a donné ses responsabilités. D'accord ? Donc c'est pas comme s'il m'avait donné une tâche qui était impossible à réaliser, qui m'écraserait. Il m'a donné une responsabilité pour le bien, pour mon bien, pour le bien des autres. Il m'a donné cette responsabilité. Donc cette responsabilité, comme la responsabilité de mon mariage, par exemple, est là pour m'aider à grandir, mais aussi pour que je sois une bénédiction. Ce soit une bénédiction pour moi si je fais attention à cette responsabilité. Donc le fait de réaliser que ces responsabilités m'ont été données par Dieu et que Dieu m'a donné les ressources pour faire ce que Dieu souhaite que je fasse. Donc ça m'a permis de soulager un peu la responsabilité de ce fardeau. Donc en étudiant ce passage, j'ai réalisé aussi qu'il y avait des domaines dans ma vie où peut-être je ne me débrouillais pas très bien. Il y a des domaines dans ma vie où j'étais un peu fainéant. J'ignorais mes responsabilités. Qu'est-ce que c'est? C'est bien que Dieu me rappelle que je vais être responsable un jour. Parce que maintenant, du coup, je peux dire, je suis désolé, je ne me suis pas bien débrouillé jusqu'à maintenant avec les responsabilités que tu m'as données. Mais maintenant, j'ai l'intention, montre-moi, guide-moi, aide-moi à mieux me débrouiller. C'est bien de la part de Dieu de nous rappeler cela. Parce que vous savez quoi? Je prends l'exemple du mariage, par exemple, et que beaucoup d'entre vous connaissez. Si je prends la responsabilité du mariage sérieusement, dans 5 ans, est-ce que mon mariage sera mieux qu'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si je prends cette responsabilité au sérieux, et donc ma femme, ma relation avec ma femme s'améliorera. Donc si je prends ma responsabilité envers les gens de mon église, mes frères et sœurs dans l'église, si je prends cette responsabilité au sérieux, est-ce que mes relations avec les membres de l'église vont s'améliorer ou pas, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, absolument. Donc, c'est un moment en fait très positif. C'est un moment un peu difficile parce qu'on doit réfléchir, oh là là, les responsabilités, je vais peut-être devoir changer les choses dans ma vie. Mais c'est aussi une opportunité pour Dieu de guider, de diriger nos pas. Donc, on va être appelé à être responsable. Mais aussi, on va être jugé, non pas juste sur nos activités, mais aussi nos motivations. Et si on est appelé, si on est jugé sur notre obéissance, est-ce qu'on est enfant obéissant ou pas, on doit aussi se rappeler que le commandement de base, c'était un commandement sur l'attitude. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Aime ton voisin autant que toi-même. C'est un commandement. Donc, vous pouvez servir votre voisin avec une mauvaise attitude. C'est possible, en fait. On a tous déjà fait ça dans notre vie. Même dans le contexte du mariage, parfois, ça arrive. Oui, je vais nettoyer la maison. Je vais nettoyer le sol. Mais en fait, l'attitude est très mauvaise et pourrie. Donc, notre attitude doit être examinée ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on gagne de... Si nous sommes jugés ce jour-là, est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce qu'il y a une récompense? On est des êtres humains, non? On a envie de savoir ce qu'on peut gagner, ce qui a comme avantage à obéir. Eh bien, la Bible nous parle de différentes couronnes qui sont données, vous pouvez étudier ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez le livre de Révélation, vous savez qu'ils enlèvent la couronne des têtes des gens et ils disent, mais toi seul, Jésus, tu es digne. Donc, ce qui se passe en fait là-bas, on reçoit des récompenses, on est censé chercher des trésors au ciel. Mais est-ce que ça veut dire que John va avoir plein de médailles et de récompenses? Et je vais avoir juste une petite, toute petite médaille? Et je vais me sentir mal par rapport à John? Je pense que c'est une manière très humaine d'imaginer la situation. Moi, je pensais que la motivation doit être plus profonde. La motivation doit être différente. J'ai eu beaucoup d'enseignants. J'ai eu, à mon avis, 3 ou 4 professeurs qui étaient absolument exceptionnels. D'habitude, quand je prends un cours, je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous, j'ai envie d'avoir des bonnes notes, j'ai envie de réussir. C'est moi qui essaye d'avoir une bonne note et j'essaie d'apprendre plus. Mais il y a juste quelques professeurs que j'ai eus au cours de mes études qui étaient différents. Pour certains, pour une certaine raison, j'avais juste envie de leur plaire. J'avais juste envie de leur plaire. Un de ces professeurs, c'était un des premiers professeurs français que j'ai eu. J'ai pris un test et me suis retrouvé à un niveau B1. Et alors que j'aurais dû être au niveau débutant, plus bas. Donc c'était horrible pour moi. Mais il y avait quelque chose chez cette enseignante. J'avais juste envie de lui faire plaisir. Je pense que je me rappelle d'un prof de maths quand j'étais enfant. Il y avait quelque chose chez ce prof qui... J'ai envie de faire plaisir à cette prof de maths. Donc j'avais envie que ce prof me dise « Carl, bravo. Bravo. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. » C'était pas moi qui devais avoir une récompense ou qui devait être le meilleur de la classe, non. Le fait que cette prof me prononce ces mots, bravo, parce que pour moi, l'opinion de cet enseignant était très importante. Et quand on parle de notre relation avec Jésus-Christ, quand on sera devant le jour du jugement, au jour du jugement, le fait qu'il nous a donné une responsabilité, ça ne devrait pas. Est-ce que notre motivation, ça ne devrait pas être d'entendre ce jour-là les paroles de Dieu qui nous disent bravo, bon travail. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Paul écrit la chose suivante. Le temps est venu pour mon départ. Je vais mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Mon but était de lui plaire. J'ai gardé la foi. Et maintenant, je vais obtenir la couronne de la justice qui me sera remise par Dieu, le juge, et aussi pour tous ceux qui ont désiré qu'il apparaisse. Donc sa venue. On va prendre quelques moments pour prier et pour demander à Dieu, Seigneur, montre-nous les domaines de responsabilité que nous avons. Si nous devions nous passer devant le jugement aujourd'hui, comment est-ce qu'on évaluerait notre comportement? Permettez au Saint-Esprit de vous montrer les domaines, peut-être de faire certaines corrections dans votre comportement. Peut-être certaines relations dans lesquelles nous devons améliorer. On va prendre quelques moments. Et après quelques petits moments, l'équipe du louange viendra et va diriger quelques chants. L'équipe de prière sera au fond. Et si vous voulez la prière pour un certain domaine, ils seront là pour vous. Peut-être que vous sentez que vous avez négligé vos responsabilités dans un domaine. Et peut-être qu'on priera pour vous. Donc l'équipe de prière sera disponible. Donc on va prendre quelques moments de silence et l'équipe de louange peut venir.